Chers étudiants, bonjour. Le cours de fiscalité des opérations bancaires et financières est destiné aux étudiants de Master 2 en spécialité économie monétaire et bancaire, ainsi qu'aux étudiants de gestion, des sciences de gestion. Donc, c'est un cours qui apporte des éléments riches en enseignement, notamment en matière de calcul de l'impôt et des différentes taxes frappant le capital, la dépense et les revenus bancaires et financiers de façon particulière, notamment des personnes physiques et morales, relevant que ce soit du régime de l'IRG ou que ce soit du régime de l'IBS, donc suivi toujours au régime du réel. Donc, ce cours est appuyé par des exemples numériques, des exercices qui permettent de concevoir des solutions, que ce soit en termes de calcul de l'IRG, par exemple d'une personne physique, dont la base imposable est constituée de différents revenus, notamment des capitaux mobiliers, son salaire, ainsi que des bénéfices réalisés au cours d'un exercice déterminé. Donc, ce cours sera scindé en quatre chapitres. Dans un premier, nous présentons une synthèse de l'IRG, donc l'impôt sur le revenu global, ainsi que du régime forfaitaire unique. Nous exposons le barème de l'IRG, notamment les personnes passibles à l'IRG, les personnes exonérées du paiement de l'IRG, comment donc calculer le revenu net imposable, comment soumettre ce dernier au barème de l'IRG, ainsi que l'application de l'abattement, que ce soit le premier abattement de 40%, mais également le second abattement quand la personne physique soumise à l'IRG est concernée par un second abattement. Dans le deuxième chapitre, nous présentons l'impôt sur le bénéfice des sociétés, ainsi que les principales taxes frappant les actifs professionnels, donc industriels et commerciaux. Donc, notamment, nous avons le cas de la TAP. Dans ce chapitre, nous nous intéressons donc au calcul de l'IBS, donc notamment comment passer d'un résultat d'exercice à un résultat comptable, et ce à travers des exemples numériques où nous montrons le mode de calcul de la matière imposable, résultat fiscal, après donc les réintégrations et déductions, les retraitements fiscaux nécessaires, et comment liquider l'IBS, comment payer l'IBS à travers le calcul des acomptes à verser. Ensuite, nous pencherons cette deuxième partie vers le calcul de la TAP avec des exemples numériques, mais également de la TVA. La TVA, donc encaissée, décaissée, et quel est le montant de la TVA à payer. Dans le troisième chapitre, nous avons présenté la fiscalité des opérations bancaires et financières, comme nous le savons tous en Algérie. Cette fiscalité est rattachée au placement des valeurs mobilières, donc qui fait partie de l'IRG, dans la catégorie donc IRG et RCM. Cette fiscalité est constituée de toute taxation de produits ou d'imposition de produits de placement, que ce soit à revenu fixe ou que ce soit à revenu variable, notamment les PVC, les plus-values cessions de valeur mobilière, ainsi que les produits donc relevant des parts sociales, des OPCVM et du fonds de soutien de l'investissement pour l'emploi. Dans la première partie où nous exposons donc les produits des placements revenus fixes, nous montrons la fiscalité de ces produits, notamment les produits bancaires, où nous montrons la différence entre les deux taxations, donc les deux impositions de produits bancaires tels que les comptes courants, les dépôts à vue, les bons de caisse, les cautionnements et autres opérations qui ne sont pas donc libérées de l'impôt, c'est-à-dire ces dernières, donc les produits de ces placements doivent être déclarés dans la G1, donc ils ne sont pas libératoires. Et un abattement est accordé une fois que ces derniers sont bien sûr soumis à cette fiscalité, soumis à cette imposition. Par ailleurs, certains impôts frappant ou touchant donc les opérations financières bancaires, notamment les produits bancaires, tels que les comptes courants, pardon, tels que les comptes, tels que les livrets ou les comptes d'épargne des particuliers, ces derniers, leur mode d'imposition est soumis à un régime, toujours de la retenue à la source, mais un peu spécifique. Donc, quand le montant des intérêts ne dépasse pas 50 000 dinars, une retenue à la source de 1% constitue donc le montant de cette imposition. Donc, c'est une retenue à la source payée par la banque à l'administration fiscale. Donc, ces revenus deviennent libératoires de l'impôt, c'est-à-dire que si la personne physique détient d'autres sources de revenus, et que le montant des intérêts, des sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne des particuliers ne dépasse pas 50 000 dinars, la personne physique n'est pas dans l'obligation de les déclarer dans l'AGE1. Par ailleurs, si la somme des produits de ces intérêts sous forme d'intérêts dépasse 50 000 dinars, le contribuable, qui est dans ce cas-là la personne physique, le détenteur du compte, est dans l'obligation de les déclarer dans l'AGE1. Donc le taux d'imposition n'est pas le même, donc 1% libératoire pour toute fraction inférieure à 50 000 dinars et 10% pour la fraction supérieure. Donc il y a logiquement, puisqu'ils sont non libératoires de l'impôt dans le cas où la fraction des intérêts dépasse 50 000 dinars, le taux d'imposition est de 10% et il y a un abattement de 50 000 dinars qui est donc accordé à ce contribuable. Comme je viens de dire que les comptes courants, je récapitule, les comptes courants, notamment tout ce qui est une forme de dépôt à vue, que ce soit compte à vue, compte même à terme ou à préavis, sont, ainsi que les cautionnements et les comptes en devise, sont soumis donc à une retenue à la source d'un taux de 10%. Donc, ces derniers ne bénéficient d'aucun abattement. Donc, ils sont non libératoires de l'impôt. Donc, si le contribuable détient d'autres sources de revenus, il est dans l'obligation de les déclarer dans l'AGE1. Donc, il y a un crédit d'impôt qui sera donc déduit du montant du revenu à déclarer, net à déclarer. Même chose pour les placements en devises, c'est le même principe, sauf que là, on va donc opter pour une conversion en dinars et le mode d'imposition est le même, donc que ce soit pour un compte en dinars ou compte en devises, donc le taux est de toujours 10%, donc pas d'abattement et il y a crédit d'impôt. Un cas particulier, c'est les bons de caisse. Ces derniers donc sont soumis à un mode d'imposition dont le taux est selon que la personne physique soit morale donc ou statut juridique moral ou personne physique, le taux d'imposition de ces bons de caisse est de l'ordre de 40 à 50%. Sauf que ces revenus, les intérêts produits par les bons de caisse ne bénéficient d'aucun abattement et pas de crédit d'impôt puisque donc ils sont libératoires de l'impôt. Donc le taux d'imposition, comme je viens de le citer, est de l'ordre de 40 à 50%. Donc pas de crédit d'impôt pour ces derniers. Passons maintenant au mode d'imposition des actions et des produits des parts sociales, ça veut dire c'est les produits, des placements à revenus variables. Donc, pour ce qui est des actions et des parts sociales, donc il s'agit d'impôts, c'est spontané, donc il y a un taux d'imposition libératoire de l'impôt qui est de l'ordre de 15% pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Donc, selon la loi de 2023, les revenus boursiers sont, avant donc 2023, et donc ils sont des déductions, constituent des déductions donc, de la base de calcul de l'IBS. Et à partir de 2023, notamment pour le cas des dividendes, qui sont donc des réintégrations à partir de 2023. Donc pour le mode de d'imposition des dividendes et des revenus boursiers pour les personnes morales, il y a finalement suppression de l'avantage accordé à partir 2023. Cet avantage, c'est donc de déduire le montant des dividendes ou des revenus boursiers de la base imposable, donc du résultat comptable. Puis, à partir de 2023, donc il devient des réintégrations. Pour ce qui est des PVC, les plus-values de cession, donc pour les PVC à caractère professionnel, le taux d'imposition pour les personnes physiques est de l'ordre de d'abord pour personnes physiques résidentes en Algérie. Donc pour les PVC à caractère non professionnel d'abord, donc elles sont soumises à une imposition au taux de 15% avec une possibilité de bénéficier d'une réduction d'un abattement de 5% en cas où donc il y a réinvestissement du montant de la PVC. Pour les personnes morales, bien sûr résidentes en Algérie, donc on a deux cas, les plus-values à caractère professionnel, donc qui sont soumises bien sûr à l'IBS par l'intégration au bénéfice imposable uniquement de 70% des PVC à court terme et donc de 35% pour les PVC à long terme. Pour les PVC cotés en bourse, c'est-à-dire sur les marchés organisés, marchés des actions, des obligations, etc., les personnes physiques ou morales qui sont soumises soit à l'IRG pour les personnes physiques et l'IBS pour les personnes morales, elles sont exonérées du paiement donc la PVC, de l'IRG sur la PVC ou de la réintégration du montant de la PVC dans le calcul donc du résultat fiscal à compter de 2019. Donc il y a donc exonération. Même chose pour les produits des actions et des obligations. Pour ce qui est du dernier chapitre, donc nous avons prévu un chapitre qui va donc cerner à travers une comparaison du système fiscal français au système fiscal algérien, les caractéristiques du système fiscal français en mettant en exergue bien sûr non seulement le régime d'imposition pour le cas des revenus des personnes physiques ainsi que de l'IS pour les personnes morales au lieu de l'IBS ainsi que de l'IR pour les personnes physiques sont bien sûr oubliés de cerner la partie la plus importante qui est donc comme en Algérie, le même cas, les produits des placements de valeurs mobilières et qui sont également dans le cadre donc du régime approprié au RCM, c'est-à-dire les revenus des capitaux mobiliers. Deux catégories sont distinguées, donc qui sont les produits de placement revenu fixe et les produits de placement à revenu variable, mais avec donc un régime d'imposition qui est complètement différent pour le cas français. Et nous vous remercions ainsi de nous avoir suivis et de nous avoir prêté donc attention.